Et alors, l'organisateur du débat essayait de faire dire aux enfants israéliens quel était leur programme pour la solution du problème israélo-arabe. Alors, puisque l'ONU ne s'en sort pas, puisque les grandes puissances ne s'en sortent pas, peut-être que la solution va pouvoir être inventée par les petits-enfants des classes de 7e et de 6e et de 5e des écoles israéliennes. Et j'étais absolument stupéfait de ce qui s'est dévoilé là, de la qualité d'identité de ces gosses. Ils avaient été pris intentionnellement dans des écoles de différents partis idéologiques. Il y avait des datim plus, des datim moins, des losatim moins et des losatim plus. Mais cette espèce de réaction, hein, de bonne santé mentale, je vais essayer de vous décrire une des impressions que j'ai eues, c'est absolument fantastique. Tout ce qu'ils disaient était utopique, irréel, angélique. Hein. Bon, et bien c'est très simple. On a fait de la peine aux Arabes parce qu'on leur a pris notre pays, alors on va leur rendre le plus possible, à condition qu'ils mettent leur signature vraiment, qu'ils signent vraiment sur un contrat comme quoi il y a la paix. Je ne sais pas si vous imaginez que des gosses d'une telle société, après tout ce qu'a été l'histoire des juges jusqu'à présent y compris, réagissent de façon aussi spontanée à ce niveau-là, alors c'est vraiment qu'on a réussi. Vous comprenez ? Si on devait utiliser politiquement, pratiquement les solutions proposées par ces gosses, on va leur rendre tout pour leur montrer notre bonne volonté. Il y a même un gosse qui a dit oui, mais pas Tel Aviv quand même. seulement à condition qu'ils signent. Vous voyez, vous comprenez l'envergure de la chose. Voilà, c'était absolument angélique, mais c'est l'indice qu'effectivement l'identité juive a réussi. Si les gosses israéliens aujourd'hui réagissent comme ça, bon, nous avons gagné la paix. La guerre, c'est plus facile. Et une deuxième remarque, le présentateur du débat a posé la question suivante: est-ce que tu serais disposé à avoir un ami arabe de ton âge? Alors tous ces gosses-là, spontanément, c'est une chose qui va de soi, Lamalo, Mouham, bien sûr, c'est un homme, ah oui, mais à une condition, c'est qu'ils ne viennent pas avec un couteau dans la poche. À ce niveau-là, bon, alors c'est sûr que la moralité a réussi en Israël à l'échelle de l'identité collective, à l'échelle du peuple. Et c'est vrai, parce qu'on a maintenant, c'est vrai depuis tout. Et donc, la dimension de l'échec, celle qui implique la nécessité d'un légalisme casuistique, concerne l'individu. Et c'est le thème qui va nous occuper. Est-ce que c'est bien clair, hein? Je vous résume très brièvement ces deux premières données. Lorsque nous lisons la manière dont dont est donnée la formulation des lois du Sinaï, nous nous apercevons que c'est en même temps une charte, mais en même temps aussi une description d'identité. Si tu es Israël qui reçoit cette loi, alors voilà comment tu seras au futur. C'est une promesse, tu seras tel que tu n'adoreras pas d'idole, tu ne tueras pas, etc., etc. Est-ce que c'est bien clair? C'est la notion de Bessora. Et puis, deuxièmement, cette carte d'identité concerne un peuple, et il est inévitable qu'à l'échelle du peuple, il y ait bien entendu cette dimension de l'échec par rapport à ce niveau de description, mais la dimension de l'échec est à l'échelle individuelle. Voici comment le problème est posé, et nous allons donc maintenant commencer cet exégèse pour comprendre cette notion qui nous vient du Shlah, de la fonction rédemptrice du légalisme, c'est-à-dire le détail de la loi tel qu'il va s'appliquer au niveau de la vie de la cité a pour objectif de récupérer à l'échelle individuelle les identités qui n'ont pas été capables d'être à la hauteur de la manière dont la Torah décrit avec les 10 commandements, décrit l'identité d'un Israël réussi. Voici ce qui se passe. Immédiatement, dans l'ordre des chapitres, immédiatement après le chapitre 20, de la paracha de Yitro, dans la paracha de Yitro nous trouvons les 10 commandements, nous avons à partir du chapitre 21 la sidra de Mishpatim. Et je vous rappelle, pour ceux qui suivent les cours du PH, que nous avons choisi cette année comme programme d'ensemble des différents secteurs d'études traditionnelles et de pensée juive une réflexion sur les organisations et les structures de la société hébraïque, et en particulier ce problème des Mishpatim, c'est-à-dire de la nature et de l'autorité des tribunaux et du juge en Israël. Bref définition linguistique, mitzvah, la mitzvah que nous traduisons par le commandement, en hébreu cela signifie la description du projet de la volonté du Créateur tel qu'il se révèle dans la loi. Les mitzvot, c'est les objectifs à atteindre. Les mishpatim, mishpat, qui signifie aussi loi, les mishpatim, c'est la manière pratique, donc légale, de réaliser, les moyens de réaliser ces objectifs décrits par les mitzvot. Je donne un exemple simple. Voici une des mitzvot de la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, si nous traduisons ainsi approximativement. Bien, ça c'est une mitzvah, c'est ce qu'il y a à faire, c'est ce qu'il y a à réussir. Cette mitzvah implique toute une quantité de mishpatim, parce que, et ceci dit, comment faut-il faire pour arriver à résoudre ce problème d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà la différence qu'il y a entre mitzvah et mishpat. Et alors, cet étonnement que nous avons, c'est de voir immédiatement, après la description des 10 commandements du Sinaï, une législation de légalisme pur, formellement pur, qui apparaît immédiatement. Ve'ele amishpatim asher tasim lifneihem. Alors que les 10 commandements ont été donnés, c'est-à-dire voici la finalité d'identité morale à atteindre, et sous-entendu, maintenant que vous savez qui est l'homme réussi, débrouillez-vous de rejoindre ce modèle, de réaliser ce modèle. Nous voici que la Torah revient sur le problème de la révélation de la loi et dit ceci, et voici les mishpatim, et de surcroît, ve'ele. Et en plus, voici les mishpatim, voici les lois, sous-entendu de détail, asher tasim lifneihem, que tu leur proposeras. Dieu s'adresse à Moïse en disant, voilà, tu as donné l'essentiel de la loi, les 10 commandements, et voici maintenant les mishpatim qu'il faut leur proposer. C'est-à-dire qu'il y a aussi une manière propre à Israël de réaliser la stratégie politique à l'intérieur de la vie de la cité, de telle sorte que les objectifs de la moralité soient atteints et soient réalisés. Nous verrons que le principal étonnement concerne l'exemple qui est donné. La première des lois, sous forme de mishpat, qui est proposée à Israël, est la suivante. Qui tikne eved ivri, lorsque tu acquerras ou tu achèteras un esclave hébreu, shesh shanim ya'avod, ou bashevi, c'est la chopshi chinam. Pendant 6 années, il travaillera, et la 7e année, il sortira libre, sans dédommagement, sans avoir à racheter sa liberté. Et il faut bien percevoir l'étonnement à la lecture de ce premier exemple. Alors que l'on vient de décrire la charte de libération de toute aliénation, quelle qu'elle soit, Israël vient d'être libéré de l'esclavage en Égypte, la Torah lui est donnée, et par conséquent, il est par définition décrit comme étant l'homme libre de cette liberté qui permet la réalisation des valeurs morales, enfin dégagé de toute aliénation, quelle qu'elle soit. Et voilà que la première éventualité du texte biblique dans Mishpatim, c'est « Et lorsque tu acquerras un esclave hébreu ». Est-ce que vous comprenez bien la difficulté? D'où sort cet esclave hébreu? Il n'y en a plus. Et il ne doit plus y en avoir. À la rigueur, si la législation de la Torah devait prévoir le cas de l'esclave hébreu, ce serait en fin de texte, ce serait à la fin. Il faut d'abord que nous apprenions qu'Israël doit être organisé de façon politique dans la vie de la cité, que par conséquent il y aura une constitution, qu'il y aura donc des tribunaux pour juger de la relation entre l'identité et la constitution, et que s'il y a échec, il risque d'y avoir, par violation de la constitution, il risque d'y avoir donc l'esclave hébreu, et alors en fin de compte, qu'on nous apprenne à la fin de la Torah quel sera le statut de l'esclave hébreu. Je m'explique. Il y avait deux sortes de dispositions concernant ce que je vous traduis par esclave, parce que les dictionnaires traduisent ainsi, mais Eved, ça veut dire serviteur, ça veut dire domestique, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas capable de gagner sa vie par lui-même et qui travaille chez quelqu'un d'autre pour pouvoir gagner sa vie grâce à l'abri de la responsabilité sociale de son employeur. Le Eved de la Torah, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui, même pas seulement le prolétaire, mais tout simplement celui qui travaille chez quelqu'un d'autre. D'une certaine manière, nous sommes tous des avalim, puisque nous dépendons d'un patron. Le fait de dépendre d'un patron, c'est ça, Eved, dans la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense qu'on peut préciser de la manière suivante, à la manière d'un certain nombre de commentateurs, c'est que, au fond, le fait d'être Eved, c'est le fait de ne pas disposer de son emploi du temps. Le fait d'être soumis à un horaire qui dépend de la volonté de quelqu'un d'autre, et c'est tout simplement ça, être éveillé. Vous comprenez pourquoi il m'arrive si souvent de me libérer de l'emploi du temps. Bon, je reviens au problème. Certainement, ça plonge dans quelque chose de psychologiquement très profond. Le fait d'être soumis à l'horaire, c'est le bagne. Voilà, revenons au problème. Il y avait deux cas possibles. Le premier cas, c'est lorsque quelqu'un délibérément a violé la loi. Par exemple, je n'ai pas suffisamment de quoi manger, alors je prends à quelqu'un d'autre. Sanction, eh bien la sanction prévue par la Torah, c'est que je vais travailler chez ce quelqu'un d'autre jusqu'à rembourser la dette que j'ai contractée par le vol. Est-ce que c'est bien clair? Voilà la première forme du Evet Ili, celui qui est condamné par le tribunal à être travaillant chez celui à qui il avait porté le vol pour éteindre sa dette. Bien. Le deuxième cas du Evet Ili, c'est celui qui pressent que ça va lui arriver, qui pressent qu'il est dans le besoin, alors avant de risquer de violer la morale en volant, quitte à se faire condamner pour un excès, eh bien, il va au bureau de placement et il s'engage comme domestique. Alors, dans les deux cas, il est délivré. Mais dans le premier cas, il a été condamné par le tribunal à travailler dans le statut du prolétaire, si vous voulez. Dans le deuxième cas, c'est lui qui a pris l'initiative de se vendre lui-même afin de ne pas avoir à risquer de violer la loi morale. Et par conséquent, on comprend pourquoi le statut politique et juridique du deuxième cas va être supérieur à celui du premier cas. Lorsque c'est le tribunal qui a condamné, il y a une sorte de diffamation qui s'attache, enfin de disqualification qui s'attache à ce cas. Tandis que celui qui s'est vendu lui-même, enfin qui s'est placé lui-même chez quelqu'un d'autre, eh bien a donné au moins ce témoignage de la bonne foi quant aux valeurs morales. Je ne veux pas risquer d'en arriver là à la violation de la Constitution, et par conséquent je prends les deux ordres. Mais quoi qu'il en soit, dans l'un comme dans l'autre cas, cette disposition de la loi selon laquelle il peut arriver cela, qu'existe l'éventualité d'un Evet Ili, devait être citée à la fin de la loi. Je reprends le raisonnement. Voici ce que Moïse dit à Israël. Vous êtes destiné à être peuple de prêtre, c'est-à-dire à porter le témoignage, en hébreu ça veut dire dire. Apporter le témoignage de la moralité réussie. Et voilà votre charte de moralité réussie, c'est les 10 commandements. Et maintenant, débrouillez-vous. Si vous savez comment il faut le réaliser, alors c'est que vous êtes Israël. Si vous ne savez pas comment il faut réaliser la morale réussie, c'est que vous n'êtes pas Israël. Est-ce que c'est bien clair? Par conséquent, il faut s'attendre à ce que Israël aura en fin de compte une constitution qui a pour objet, donc un légalisme, qui a pour objet l'incarnation dans la vie quotidienne de la charte des valeurs morales. Et par conséquent, si Israël doit avoir une constitution des Mishpatim, il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait le risque de l'échec dans la dimension de l'individu, et il faut donc prévoir la récupération des individus. Et donc, finalement, l'ordre des enseignements dans la Torah redevient normal. Moïse sait qu'Israël, nanti de cette charte de moralité qu'est les 10 commandements, la Torah au niveau des 10 commandements va entrer dans la vie tout court. Il va entrer dans la vie tout court, inévitablement, il y aura des échecs. Alors c'est d'abord de l'échec qu'on s'occupe. Vous voyez, immédiatement, c'est l'éventualité directe de l'échec le plus grave qui va être cité comme exemple des Mishpatim. C'est-à-dire, et s'il arrive cela, qu'un individu en Israël échoue au niveau de la liberté morale, alors récupère-le. C'est là que la Torah intervient. Sache que tu n'as le droit, au nom de la Torah, de ne l'employer que pendant 6 ans, et la 7e année, il faut que tu le libères. Vous voyez comment la Torah, ici, intervient dans le sens d'une opposition aux intérêts de la société. Il n'y a pas ici des lois de justice sociale dans le sens banal du terme, parce que dans le fond des choses, c'est une injustice sociale que d'obliger le patron à libérer son employé, enfin son esclave, la 7e année. Ça, c'est la volonté de la Torah. C'est-à-dire, que se passe-t-il? Les individus ne sont pas capables d'être des hommes libres. Eh bien, la Torah va intervenir pour briser cet ordre de la justice sociale qui voudrait qu'il y ait des patrons et des employés. C'est intentionnellement que je présente cela sous forme paradoxale, parce qu'il y a une erreur de jugement. On croit que cette législation de la Torah est d'ordre socialiste, je veux dire que son principe est au nom de la justice sociale. Il semble qu'il y a là une finalité beaucoup plus profonde. La justice sociale réclame qu'il y ait des forts et des faibles. Elle réclame qu'il y ait des hommes qui réussissent et des hommes qui échouent. Mais la Torah est contre, parce qu'il faut récupérer les individus. Est-ce que c'est bien clair, hein? dans l'ordre de la justice, des critères de la société, eh bien, celui qui a échoué dans le propos, dans le projet d'être libre, devrait être normalement condamné à être aliéné à quelqu'un d'autre. Mais la Torah intervient et dit, pas question, il faut le libérer malgré tout. D'où toute une stratégie pédagogique, on place l'homme qui n'avait pas été capable d'être libre chez un homme libre pour qu'il fasse l'apprentissage de la liberté. Et à la septième année, au moment de la Shemitah de la septième année, ce tuteur qu'il avait doit le libérer en lui donnant d'ailleurs une dot comme produit de son travail, c'est-à-dire il doit le remettre en selle au niveau de la société des hommes libres. Alors on comprend bien pourquoi c'est cet exemple de l'échec ultime qui est pris comme premier exemple des lois dites sociales que la Torah introduit. Eh bien, lisons Rashi à ce sujet. Ve'ele ha-mishpatim, Rashi cite le Midrash, qui dit ceci, kol makom she'ne'emar ele, dans tout endroit dans le texte où un enseignement est précédé par l'expression ele, c'est-à-dire voici, pisel et arishonim. Cela disqualifie les enseignements précédents. Alors, je vous explique d'abord cela. En hébreu, pour dire voici, on se sert aussi du pluriel du mot zé, ceci, elle est au pluriel, ceci au pluriel, ce sont des choses qui, elle introduit cette idée de désignation des enseignements qui viennent, qui apparaissent à un certain moment du déroulement de la révélation. Mais parfois nous trouvons dans le texte VL, et voici. C'est-à-dire, il y a la lettre V, VAR, qui désigne la conjonction. Donc on peut avoir deux expressions, soit ELE, voici, soit VELE, et voici. Un principe du Midrash dit ceci. S'il y a voici, cela disqualifie tout ce qui a été dit de façon précédente. On a donné un certain ordre, une première approximation de la définition, et maintenant on définit vraiment voici, ELE. Ça fait une coupure, une rupture avec le texte précédent. Le texte précédent est donc gardé pour mémoire. Voici comment cela a été avant, mais voici comment cela est maintenant. L'expression « voici » et « elle » disqualifie ce qu'il y a avant. C'est bien clair? Mais s'il y a « ve'ele » mosif à la rishonim, dira-t-il, s'il y a « ve'ele » et « voici », cela signifie que les choses que l'on ajoute viennent s'ajouter aux choses précédentes sans disqualifier les choses précédentes. Effectivement, nous avons ici deux définitions de la loi. Les 10 commandements, donc la charte d'identité ultime, et puis maintenant on nous parle d'une législation de récupération. Alors c'est au lieu de vous comprenez du point de vue formel, ici le problème de la définition de la loi morale nous est bien posé. Ou bien c'est mitzvot misinai, ou bien c'est mishpatim. Ou bien c'est au niveau de la définition d'identité réussie, ou bien c'est au niveau d'une stratégie de la vie sociale où il s'agit d'essayer de faire régner un certain ordre. Ou bien c'est les mitzvot du Sinaï, ou bien c'est les mishpatim. Alors, le Midrash dit, s'il y avait simplement Ele à mishpatim, voici les commandements que tu leur proposeras comme carte d'identité sociale, alors nous dirions, bon, le rêve des 10 commandements est abandonné, pisel et arishonim. Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez comment nous retrouvons notre problème. Mais le fait qu'il y ait Ve'ele, ça implique, nous dit Rashi, que mosif à l'arishonim, ces mishpatim viennent s'adjoindre au Sinaï dans la perspective même du Sinaï, ma'elu ma rishonim misinaï, afelu misinaï. Et de même que les 10 commandements ont cette prérogative d'être la loi du Sinaï, de la révélation telle que Dieu a voulu l'indiquer, de même ces mishpatim aussi ont la nature de la révélation du Sinaï. La difficulté qu'il y a là, c'est que personne ne met en doute que toutes les mitzvot données dans la Torah de Moïse sont du Sinaï, ces mishpatim y compris. Donc c'est qu'il y a une intention beaucoup plus profonde. C'est qu'il y a une différence de qualité dans l'expression « misinaï » ou « lo misinaï ». Est-ce que c'est bien clair? Les 10 commandements, dans leur cohérence propre, qui régissent les rapports entre l'homme et Dieu, les rapports entre l'homme et autrui, les rapports entre l'homme et soi-même, nous avons d'ailleurs dans le plan des 10 commandements, comme vous le savez, un plan extraordinairement clair. Il y aurait été une définition « qui est Israël dans sa relation avec Dieu ?» et « je suis le Seigneur ton Dieu qui t'est délivré de tout esclavage », nous reviendrons là-dessus. Et ensuite, il y a 9 commandements qui régissent les rapports entre l'homme et Dieu, entre l'homme et autrui, entre l'homme et soi-même, chaque fois au niveau de l'intention, de la parole et de l'acte. Donc c'est le même commandement, comment se conduire avec autrui, mais à trois fois trois niveaux différents. Et une fois bien comprise le niveau et la nature de la qualité de ces mitzvot Mishinai, voilà qu'on nous donne une législation de récupération, Mishpatim, mais ces Mishpatim, nous dit Rashi, puisqu'il y a écrit Vélé, sont aussi de la nature du Sinaï. Est-ce que c'est bien clair? Donc dans cette lecture de Rashi, Rishonim et Ahaonim, c'est les commandements eux-mêmes. De même que les Rishonim, que les premiers commandements sont du Sinaï, Afelou Mishinai, de même ces commandements-là, les Mishpatim, sont du Sinaï. Et ça veut dire plus que formellement donné au Sinaï, ça veut dire de la nature de ce qui a été donné au Sinaï, c'est-à-dire la loi de la libération de l'identité humaine par la réalisation des valeurs morales. Est-ce que c'est bien fait? Tout se passe comme si ce commentaire vient évacuer la différence de nature qu'il y a entre Mitzvot et Mishpatim. Eh bien, le Shlach va reprendre ce problème sur un tout autre niveau. Je veux d'abord bien m'assurer, est-ce que cette première exégèse a été suffisamment claire? C'est-à-dire, les premiers commandements sont de la nature de la révélation transcendantale. Ne croyez pas que ces commandements qui s'occupent de législation sociale soient une légalité pure et simple. Ils font aussi partie de la révélation de la morale transcendante. Mais dans quel objectif? Précisément dans l'objectif de la fonction rédemptrice. Bien, c'est là-dessus que le Shla, en se basant sur l'enseignement du Zohar, va intervenir. Ça nous permet, si vous voulez, de passer par une introduction de définition de la fonction du juge en Israël. Toute l'atmosphère de la Torah et toute l'atmosphère de la législation talmudique elle-même montre ceci. Le juge en Israël n'est pas du tout considéré comme un homme qui accuse, mais comme un homme qui justifie. Je veux dire que la fonction du juge est d'arriver à rendre juste et non pas à accuser. Le geste même du jugement, c'est la confrontation entre une certaine identité humaine et d'autre part le modèle de l'identité humaine, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire la Constitution. Inévitablement, le jeu de la vie, le geste de la vie, introduit un décalage entre ce que la loi demande et ce que l'homme fait. Eh bien, il y aurait erreur à croire que la fonction du juge soit d'accuser cette différence qu'il y a entre l'acte et la loi. La fonction du juge est au contraire de justifier, c'est-à-dire de rendre juste, donc de récupérer. Le hitzdik est à tzadik, le hirshio est à racha. Le hitzdik à tzadik, ça signifie bien justifier le juste, c'est-à-dire récupérer celui qui aurait pu être à l'échelle individuelle dans la dimension de l'échec. Ceci est enseigné en particulier par un midrash qui nous est donné au sujet du livre de Ruth. Le premier verset du livre de Ruth commence ainsi: Vayhi bime shfot ha-shoftim, vayhi ra'a ba'aret. Et naturellement, il faut traduire ce fut au temps où jugeaient les juges. Vayhi bime shfot ha-shoftim. Et il y a eu une famine. Toute une catastrophe qui aboutit et qui a ravé en Israël et qui est indiquée, c'était au temps des juges. Mais la formule Vayhi bime shfot ha-shoftim est bien précise. Et le Midrash Talmudique dit c'était au temps où les juges jugeaient. Alors, catastrophe. Parce qu'on ne demande pas à un juge de juger, c'est-à-dire d'accuser la différence entre les actes et la loi, mais on demande à un juge de justifier, de sauver. Voici risque de l'échec de la fonction du tribunal ou de la fonction du jugement en Israël. Les juges manient la Torah comme les tribunaux des goyim manient leur légalité, alors échec, alors catastrophe. Vous voyez la forme même de l'expression. Vayhi bime shfot ha-shofetim. C'était au temps où jugeaient les juges. Bon, mais quand on est juge, on juge. Alors lequel sans dire non, il ne faut pas. Hein? Ce n'est pas le propre du juge de juger dans le sens classique du terme, mais de justifier, mais de rédimer, de sauver celui qui a été dans la dimension de l'échec. Est-ce que c'est bien clair? Hein? Et puis le Midrash ajoute de nouveau, et alors voilà ce qui est arrivé, puisque les juges jugeaient, alors on les jugeait à eux aussi. C'était au temps où les juges étaient jugés. Vous savez, c'est ce fameux apologue que d'ailleurs la littérature chrétienne a repris par la suite, mais qui se trouve dans le Talmud d'abord, lorsque le juge disait « Enlève la paille qu'il y a dans ton œil », alors on lui répondait « Commence d'abord par enlever la poutre qu'il y a dans la tienne ». Alors, si, ça vient du Talmud, là. Alors, si, si le Midrash nous parle ainsi des rapports entre les juges et leurs administrés, c'est qu'il y a des échecs dans la fonction du jugement. Pourquoi? Mais très littéralement, parce que les juges sont devenus, comme s'ils étaient des juges des goyim, mettre en évidence le décalage entre les actes, d'une part, et d'autre part, l'authenticité de la loi. Encore une fois, ce n'est pas la fonction du juge d'accuser, mais d'essayer de justifier. Pourquoi? Bien parce qu'à l'échelle collective, il s'agit de tzadikim. Il s'agit de tzadikim. C'est à l'échelle individuelle qu'il y a eu échec. Mais à l'échelle de l'identité collective, de la relation entre l'homme et la loi, ceux-là même qui ont échoué sont des tzadikim. Ceux-là même qui ont échoué sont de cette identité qui a accepté la loi en toute bonne foi, et par conséquent, s'il y a eu échec, c'est qu'il y a eu, toutes les circonstances atténuantes doivent être prouvées de telle sorte de récupérer l'identité individuelle qui a échoué. S'il y a eu échec, c'est un échec finalement contraint par les circonstances. Ceci en bonne part. Je veux dire, si vraiment on a affaire à un membre de la société d'Israël, c'est-à-dire de cette société qui a décidé ce sort extraordinaire d'avoir à être jugé par rapport à la moralité vraiment, de cette société qui a accepté la Torah à l'échelle du peuple, alors s'il y a échec à l'échelle individuelle, il faut sauver, il faut récupérer, il faut guérir. Est-ce que c'est bien clair? Donc la fonction du juge est une fonction rédemptrice, et non pas du tout une fonction accusatrice. Effectivement, la personnalité du juge était l'objet de tout un test. Seuls les hommes capables de générosité sont désignés pour être juges. Parce que si on désigne pour être juge les hommes qui ne sont uniquement capables de la rigueur, alors la société éclate. Parce qu'effectivement, la loi est impitoyable. C'est le juge qui doit non seulement atténuer, mais annuler la distance qu'il y a entre le modèle réussi et les approximations en cours d'histoire. Si la confrontation entre l'état des choses et le modèle réussi est une condamnation, est une disqualification. Et c'est là que nous retrouvons le thème de tout à l'heure. Oui, mais il faut savoir que c'est la loi d'un peuple. Et en tant qu'il s'agit de la loi d'un peuple, alors il faut récupérer les individus. Et nous en avons l'exemple ici. S'il arrive qu'un individu de la société échoue et soit finalement tombé dans ce statut de celui qui travaille chez autrui, qui a donc perdu le niveau de dignité de la personne humaine, alors il faut le récupérer. La fonction du juge est rédemptrice. Et Lachla explique de la manière suivante. Lorsque Rashi a dit « Ma'elu Misinai, Afelu Misinai », il ne s'agissait pas des commandements, il s'agissait des hommes. De la même manière que les premiers hommes, ceux qui étaient capables, sans échec, de la moralité réussie, seront dits les hommes du Sinaï, de la même manière, ceux-là aussi seront dits les hommes du Sinaï, c'est-à-dire ceux qui, ayant échoué à l'échelle individuelle, vont être récupérés par cette soupape rédemptrice du légalisme proprement dit. Donc, s'attache à la loi de la morale, une morale de la loi, c'est-à-dire s'attache au mitzvot du Sinaï, s'attache à une légalité, mais cette légalité a pour fonction non pas de matérialiser la loi morale en légalité politique, mais une fonction rédemptrice, c'est-à-dire de pouvoir récupérer à l'échelle individuelle l'identité de ceux qui sont tombés dans le cas de l'échec. Voilà donc l'analyse que je voulais vous proposer, et maintenant nous allons quand même avoir suffisamment de temps pour préciser dans les détails si des questions se posent à vous, ou aussi d'ailleurs au cours d'hier soir. Je dois vous dire, avant de vous donner la parole, à quel point je suis satisfait de vous voir aussi nombreux, et on n'a jamais le droit de dire la louange des gens devant eux, mais enfin il y a dans la salle un certain nombre de dirigeants du QL que je voudrais vraiment remercier d'avoir non seulement perpétué tout ce travail qui se fait, mais de l'avoir porté à de telles dimensions. Alors, au risque de froisser leur modestie, je voudrais que nous leur visions tous ensemble la charge de part. C'est vraiment... ça, c'est tout ce dont sont capables les juifs. Bien, vous avez la parole. Il faut bien savoir cela. L'enjeu que nous avons accepté en acceptant la loi comme législation est tel que tout se passe comme si cette dimension de soupape, de rédemption nous est due. Et une fois la récupération faite, après la tshuva, ils sont aussi du Sinaï. Vraiment, c'est cela. Il n'y a pas de casier judiciaire. Vous avez compris, donc c'est pas encore assez. Je vais commencer par la première question. Je vais vous dire que cet enseignement que vous citez existe un peu sous une autre forme. C'est les Mahashachim Toshivan. C'est-à-dire, on raconte que lorsque Rabbi Yirmiya est rentré de Babel à Jérusalem, il a jeûné pendant 40 jours pour pouvoir oublier la manière dont il avait appris la Torah à Babel. Et on a cité à ce propos, il y a un verset, je crois du prophète Isaïe, si je me souviens bien, qui dit « Tu m'as fait vivre dans l'obscurité ». Et sorti de cette obscurité, alors c'est la différence entre le Talmud Babli et, comme on disait d'ailleurs chez les Babyloniens, « Bema'alva ». Le Mahava, ça ne veut pas dire au Maroc, ça veut dire en Palestine, mais ça veut dire en Israël. Et quoique Mahava, ça ressemble un peu quand même. Eh bien, cette idée de l'obscurité dans le Talmud de Babylone, qui est une idée assez paradoxale, assez étonnante, hein, alors vous voulez que je vous explique en quoi les deux enseignements se recoupent. Eh bien, écoutez, je crois qu'on ne peut pas faire d'analogie en court-circuit, enfin d'analogie directe, mais je vais essayer d'expliquer enfin ma propre expérience à ce sujet. Voilà, dans les académies de Babel, finalement, c'est la vraie Torah qui est enseignée. Le Talmud Babli est authentiquement la Torah Shebealpé. Et d'ailleurs, en général, les Babyloniens eux-mêmes, enfin les membres des académies de Babylone, citaient les maîtres du Yerushalmi, citaient les maîtres de la Mishnah d'ailleurs, comme étant leur autorité, comme étant vraiment le critère de référence. Seulement, nous savons que les maîtres des académies d'Israël, de la Judée, on ne peut pas dire la Palestine parce que maintenant ça a un tout autre sens. Enfin, les maîtres de l'académie, des académies de Judée, n'aimaient pas du tout les académies de Babel. Et d'ailleurs, nous retrouvons ça un peu aujourd'hui dans la différence entre la conception de la relation entre la Torah et Israël, en Israël même, et Khutzla avec. Bon, indépendamment du conflit proprement sioniste en propre terme, le reproche fait aux maîtres des académies de Babel de continuer à entretenir des communautés de Gola. Parce que si c'est le temps du retour, alors c'est le temps du retour. Et qui doit revenir d'abord? Précisément ceux qui y croient. Et si c'est ceux qui y croient qui restent sous le prétexte de faire des écoles, alors ça veut dire, bon, moi j'ai fait ça pendant 20 ans, comme vous le savez, mais finalement, sauf, il faut mettre un point final et être en accord avec soi-même. Mais en tout cas, indépendamment de ce niveau-là, il y a cette affirmation que « En Torah, que Torah, Teret Israël ». Vous comprenez, indépendamment du point de vue politique du problème, c'est le fait qu'il y a une différence de nature entre la Torah telle qu'elle est donnée en Israël même et cette même Torah, si elle est donnée, fruit la haret. Pourquoi? Et pourquoi surtout montrer cette différence comme aussi grande que la lumière et l'obscurité? Et je dois vous dire d'ailleurs, une hellénisation, dans le sens très général du terme, d'une intellectualisation de l'étude talmudique. Si vous voulez, à Babel, on parle des hommes qui connaissent les hommes qui savent ce que c'est qu'être juif. À Jérusalem, on parle de l'identité juive directe. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est un peu la blague de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'autre. Hein? Dans les académies de Houtzlaré, on désigne l'identité d'Israël, mais par référence seconde, à une identité qui n'est authentique qu'à Jérusalem. Alors, c'est cette différence de nature qu'il y a entre la Torah de Babel et la Torah de Jérusalem. C'est Rabbi Yirmiya lui-même qui l'a enseigné et était un Hacham de Babel. Et en arrivant à Jérusalem, la perception de la différence a été telle qu'il a dit « Je sors de l'obscurité et j'entre dans la lumière ». Et alors, il a jeûné et prié pendant 40 jours pour pouvoir oublier le pilpoul de Khutzlaret, de telle sorte de pouvoir coïncider de façon primaire et non secondarisée avec ce dont parle la Torah. Et bien ça ressemble beaucoup à ce que nous avons vu hier par rapport aux Grecs. Les Grecs sont secondarisés par rapport à une révélation qu'ils ne comprenaient plus. Ben disons que les Talmudistes de Khutzlaret sont secondarisés par rapport à une révélation qu'ils continuent à comprendre, mais qui ne coïncide pas avec leur identité concrète de juif de la Galoute. Un juif de la Galoute est secondarisé par rapport à un juif d'Israël, lorsqu'il parle des mêmes choses. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? C'est cette secondarisation-là qui s'introduit dans une méthodologie qui a paru au Hachamim de d'Israël, en ce temps-là, au temps du Talmud déjà, c'est surtout Rabbi Yochanan, qui leur a paru comme étant extrêmement dangereuse, parce que intellectualisée. Et c'était inévitable. Se référer de façon seconde à une identité qui est elle-même ailleurs, c'est inévitablement mettre des concepts à la place des valeurs. Dans Koutzlaret, on ne peut pas identifier la sainteté de l'identité d'Israël. Il y a le concept de la sainteté, mais l'expérience de la sainteté, c'est une expérience localisée géographiquement. Et d'ailleurs, tout le monde sait ça, lorsqu'on arrive d'Israël, on tombe en syncope dans la descente, la yérida de la Kedusha, de la vie d'Israël, avec l'atmosphère à Paris. Ça fatigue, vous voyez ça sur ma figure. Mais c'est pas. Non, mais c'est pas une blague. C'est une expérience concrète. Hein. Alors il faut quelques jours pour arriver à se récupérer. Ça ressemble un peu, enfin même beaucoup, à l'expérience qu'on a le Shabbat soir, à la fin du Shabbat. À la fin du Shabbat, vous avez dû remarquer, au moment de l'Avdala, alors quand la Neshama Yetera s'en va, alors il y a une espèce de malaise qui est vécu psychiquement très profondément. Vous savez qu'on respire des Bessamim. Eh bien, la vraie raison pour laquelle on respire des Bessamim, c'est parce que dans l'Antiquité, quand les Juifs étaient solidement juifs, le choc de la fin de Shabbat était tel qu'on tombait en syncope. Et on respirait les Bessamim pour se réveiller de cette syncope. Alors il en est resté quelque chose du parfum, n'est-ce pas, de cela. Mais effectivement, quoi qu'il en soit, sans aller jusqu'à tomber dans la syncope, on sent très bien qu'il y a un moment de malaise. Eh bien, les kabbalistes ont enseigné cela. En Israël, on a une Neshama Yetera, c'est-à-dire en Israël, on vit toute la semaine au niveau du Shabbat de la Gola. Et puis, quand cette Neshama Yetera part, dès qu'on arrive à Orly, alors il y a un choc. Et... oui, c'est Hoshé. Voilà un peu de quoi il s'agit dans votre question. Et d'ailleurs, c'est dit de façon très claire dans la langue elle-même. Chutz la aret, c'est Het Vav Lamed, et Het Vav Lamed, c'est Hol. Il y a Kodesh et Chutz la aret, c'est Hol. Est-ce qu'il y a une autre question?
Je suis d'accord avec vous, on dit qu'Israël est le seul pays qui est jugé par la morale. Mais enfin, je voudrais comprendre pour vous quelle est la similitude entre là dans lequel la moralité sur la base de la vérité.
Ah, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le seul État où, effectivement, et ça vient du peuple, qui est le peuple de cet État, c'est par définition et d'emblée les critères de la moralité qui sont considérés comme étant la légalité elle-même. Ceci dit, la société israélienne est aux prises avec le problème qui consiste à élaborer cette légalité de la moralité, mais dans le principe c'est irréversible. Si vous voulez, l'identité israélienne, bien que d'apparence laïque par rapport à notre position traditionnaliste classique, eh bien, est de même nature que cet Israël sorti d'Égypte et qui est prêt à recevoir de la part de Moïse la moralité comme loi légale. Il n'y a pas de différence, quelles que soient les idéologies, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout ce qui, le minimum commun de conscience des hommes de l'État d'Israël, c'est-à-dire du peuple d'Israël contemporain, est absolument équivalent. C'est cette volonté juive, non seulement, je ne veux pas dire ramener de la galoute, mais préserver dans la galoute, c'est cette volonté juive qu'il ne peut pas y avoir d'autres lois légales que la moralité elle-même. Alors, bien entendu, à l'échelle individuelle, nous sommes aux prises avec toutes les équations personnelles possibles et imaginables, mais ce principe est absolument irréversible. Et c'est le seul peuple au monde pour qui ça va de soi que la loi du pays doit être la morale.
Alors, ouais. ce que vous disiez hier au sujet de la charité, alors, en Israël, on a déjà, on ne vient pas, par exemple. Pour vous, c'est la charité ou c'est...
Écoutez, je reprends l'analyse de tout à l'heure. Pour essayer d'adapter à l'exemple que vous donnez. Si nous avons affaire à une conscience morale pour qui, premièrement, il faut que la justice règne, alors lorsque cette conscience morale est occupée à faire de la charité, c'est de la charité vraiment. La charité, c'est au-delà de la justice stricte. Donner à quelqu'un ce à quoi il n'a pas droit, d'après la rigueur, d'après la justice rigoureuse. C'est ça la charité. Eh bien, si ce que Camus avait voulu nous faire comprendre est exactement ceci. Si on a affaire à une forme de la conscience morale pour qui d'abord la justice doit régner, alors lorsque l'on fait la charité est vraiment charité. Mais si on a affaire à une société qui n'accepte pas le principe de la justice, qui renonce, qui considère que l'humanité a échoué, que ce n'est pas possible qu'une société humaine soit juste, qui rejette ce rêve ou cette utopie d'Israël, alors lorsque ces hommes-là font la charité, c'est suspect. Qu'est-ce que c'est que cette charité qui n'est pas d'abord basée sur la justice? Et plus loin encore, cette charité en elle-même risque de devenir criminelle lorsqu'elle s'adresse aux criminels. Le principe de la charité, c'est qu'il faut être charitable pour le méchant comme pour le bon. Mais être charitable pour le méchant, s'il n'y a pas d'abord le garde-fou de la justice qui rend le méchant inoffensif, alors c'est un crime. Et il y a, de la part de la société occidentale, par rapport aux ennemis d'Israël, eh bien, il y a effectivement l'exemple de cela. On est charitable d'un point de vue religieux, je parle de la charité qui est donnée aux ennemis d'Israël, sans se rendre compte qu'il y a d'abord un principe de justice réalisé, et énormément de juifs sont tombés dans le panneau. Énormément de juifs sont du côté des Arabes, et en particulier des juifs français, ce qui inquiète beaucoup la société israélienne par rapport à la communauté juive française. On est très inquiet de cette espèce de maladie, de névrose dans la jeunesse juive en France. Il y a une certaine réticence par rapport à l'arrivée de l'Aliya française en Israël, parce qu'on a l'impression d'accueillir le cheval de Troie. Israël est une forteresse assiégée. Et alors, lorsque les Juifs viennent dans la forteresse, c'est pour aider les défenseurs de la forteresse, sauf les Français. Lorsque les Juifs français y arrivent, on est très gêné. Qu'est-ce qu'ils sont ? Fatah ou Et c'est assez grave. Je crois que c'est encore une séquelle de cette maladie de la jeunesse française qui est née après les maquis. La génération qui a fait les maquis. Et tous les autres qui sont nés après sont jaloux. Alors ils font les maquis des autres. Il y a beaucoup de cela. Je ne veux pas tomber dans des analogies factices. Enfin, ça a été déjà un peu connu au moment de la guerre d'Algérie, mais ça revient maintenant par rapport au problème israélo-arabe, et ça atteint énormément de juifs, mais vraiment sous forme de névrose. C'est une maladie de la conscience morale. Au nom de la charité, on commet les pires injustices. Alors je reviens à la question du Biafra. Là, c'est un cas particulier. Il est bien entendu que les Biafras sont soumis à une injustice. Et par conséquent, être charitable vis-à-vis d'eux, c'est rétablir la justice. Et c'est ce que j'appelais hier l'expiation, hatat, dans le sens de sacrifice d'expiation. Alors arrivons au fond du problème, et je crois que beaucoup de chrétiens l'ont compris. Le christianisme représente une sorte d'idéologie par rapport au judaïsme qui a renoncé à l'idée que la loi de Moïse peut être pratiquée. Et vous rappelez, pour reprendre aussi l'analyse de tout à l'heure, ils se sont trompés dans leur jugement. Ils jugent Israël comme ils se jugeraient eux-mêmes, c'est-à-dire une église. Si effectivement l'Église échoue par rapport à la morale, alors c'est grave. Elle a échoué par rapport à la morale d'ailleurs, puisque c'est l'Église qui est finalement responsable de l'état des choses dans la civilisation occidentale après 2000 ans d'éducation chrétienne. Je veux dire, la stratégie chrétienne de la moralité a pratiquement échoué. Mais enfin, revenons au problème, si une Église échoue, si vous voulez, si un prêtre est malhonnête, c'est très grave. Et alors, on a jugé les fautes à l'échelle des individus par rapport au peuple d'Israël en oubliant qu'il s'agissait d'un peuple. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau du peuple, c'est gagné. Il y a des voleurs, il y a déjà des assassins en Israël, il y a déjà des vols à main armée. Vous voyez à quel point ça se normalise en tant que peuple. Mais ce peuple, ces assassins y compris, est un peuple de justes. Parce que dans le décret de la bonne volonté, c'est la morale que l'on veut comme loi de la société. Et c'est vraiment pas une différence de nuance ou de degré avec les sociétés de droit romain. C'est une différence de nature. C'est vraiment... D'un côté le judaïsme, de l'autre côté la conscience chrétienne de séparation entre la morale et la justice. Alors les chrétiens ont la religion de la charité. Mais si ils tombent dans l'orgueil de croire que leur charité est vraiment de la charité, alors c'est de nouveau tous ces crimes de prime au mal. Être charitable pour l'assassin, eh bien c'est collaborer finalement avec son identité d'assassin. Et comment faut-il faire? Il faut être charitable. Après tout, un assassin aussi est un homme. Comme disaient mes petits Israéliens à la télévision, et bien après tout, les Arabes, c'est aussi des hommes. Oui, mais c'est ce après tout qui est à comprendre. Et donc, il faut aussi être charitable. Par rapport aux réfugiés palestiniens, nous avons un problème, non pas de justice, parce que la justice est de notre côté, c'est notre pays, mais nous avons un problème de charité. Alors, la charité n'est vraiment charité, et c'est comme telle qu'il faut considérer le problème. et les Israéliens sont des juifs. Ils sont capables de charité. Après tout, c'est nous qui avons inventé toutes ces valeurs. Hein? Mais au niveau de la charité, si la justice est d'abord réalisée, alors la charité est la charité. Si la justice n'est pas réalisée, que peut être la charité dans son authenticité? Uniquement expiation du fait que la justice n'existe pas. Et je crois que beaucoup de chrétiens l'ont compris, parce que lorsqu'ils font la charité, c'est pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas que vraiment ils ont là une vertu. Ils ne sont pas orgueilleux à ce point-là. Il y a une modestie de la charité chrétienne. Ce n'est pas par vertu, c'est par expiation. C'est par participation au sacrifice. C'est par expiation du fait que l'injustice règne, du fait que la justice est impossible. Et par conséquent, un juif, un chrétien, lorsqu'il fait la charité, elle n'est authentique que si elle est à ce niveau-là. C'est ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a enseigné dans la page de la Bava Trajusi citée hier. Je crois que nous allons prendre une soirée pour faire ce texte en détail parce qu'il est assez important. Et qui dit ceci: de la même manière que les sacrifices d'expiation au temple expiaient pour Israël, de la même manière la charité expie pour les goïms qui n'ont pas de temple et qui n'ont pas de loi. C'est-à-dire que nous avons la loi de la Torah. À l'échelle individuelle, l'échec est possible. Par conséquent, il faut qu'il y ait une fonction de rédemption. La fonction de rédemption était le sacrifice. Et Hatat, le sacrifice d'expiation. Bien, de la même manière que le Hatat expie pour Israël lorsqu'il y a des fautes vis-à-vis de la loi, de la même manière, le Hesed, la charité, expie pour les goyim qui n'ont pas de loi. Et je crois qu'il y a là une pédagogie de la charité. Et encore une fois, il me semble...